Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 19h sur Europe 1, les débats de Panorama, la Trumpmania ou l'art de tromper, comme l'écrit Sylvia, notre correspondante à Washington, Anne Toulouse. Quoi qu'on fasse, Trump est là, on l'assassine, on l'empoisonne, on l'écrase, il se relève tel Rasputin, et pour l'heure, personne n'est en capacité de lui prendre sa place chez les Républicains. À quoi c'est dû et pourquoi, au fond, une grande majorité du monde entier est contre lui? On en parle avec nos invités. Bonsoir Philippe Etienne.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Bonsoir William Tay.
Bonsoir Pierre.
Du think tank Le Millénaire. Vous allez débattre avec justement Anne Toulouse. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous à Paris. Alors
oui,
que d'habitude on vous entend de Washington.
C'est toujours un plaisir d'être in situ.
Eh bien écoutez, vous êtes in situ et non seulement vous êtes in situ, mais vous avez donc écrit L'art de tromper aux éditions du Rocher, titre qui fait bien sûr référence à l'art du deal, le livre de Trump. Trump qui est un spectaculaire gagnant de la primaire. Pourquoi toujours cet engouement?
Bien, écoutez, un des chapitres de mon livre, c'est le vote à l'envers, déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas en face de Trump quelque chose qui lui fasse réellement concurrence. Parce que je pense qu'il a été élu une première fois parce que les gens, en grande partie, ne voulaient pas d'Hillary Clinton. Et maintenant, je pense que s'il est candidat, ce sera non seulement un désaveu des partis politiques traditionnels, du Parti républicain, mais aussi un désaveu, à tort ou à raison, des 4 ans de Joe Biden. Et puis, il y a quelque chose qui fascine chez Donald Trump. Je serai bien la dernière à vous le dire, puisque j'en suis à mon 3e livre sur lui. Et je ne me lasse pas du personnage, parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas,
oui,
c'est quand même un artiste extraordinaire. C'est quelqu'un
un
qui...
acteur.
Un artiste dans l'art de faire une nouvelle sorte de politique, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi l'exploit de transposer complètement en politique une méthode qu'il avait énoncée dans le livre que vous citiez, L'art du deal. Il n'a pas vraiment de pensée politique, il a été démocrate, il a été républicain, il a appartenu au parti de la réforme, et il applique exactement la même théorie, qui est de parler toujours plus fort que les autres, d'essayer de contourner son adversaire. Enfin, on peut appliquer des citations multiples.
Il fait beaucoup de storytelling, comme on
dit. Oui, il vaut mieux une mauvaise publicité que pas de publicité du tout. Et pour moi, la citation la plus parlante, quand même, c'est quand il dit « Trump est un show ». Et ça se joue à guichet fermé tous les jours. Bah, vous avez l'alpha et l'oméga de Trump, c'est que les gens aiment le spectacle. Ils vont au cirque, quelquefois, pour voir le dompteur manger. Je pense que ça relève un peu de ça. Et ce que je dis dans mon livre, ce qui est triste, c'est qu'il est imité un peu partout.
Ouais. Philippe Etienne, qu'est-ce que vous qui avez côtoyé le personnage?
Oui, c'est un personnage. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose quand on n'est plus président et qu'on veut de nouveau devenir président, d'une part, et quand on est président, d'autre part. Donc il y a l'enjeu quand même de savoir qui va présider dans cette période mondiale extrêmement troublée, les États-Unis d'Amérique, à partir de l'année prochaine. Alors, moi j'ajouterais quand même une chose par rapport à ce que disait Toulouse, c'est que Trump est cet homme politique très particulier, très aussi opportuniste, hein, qui sent d'ailleurs bien l'opinion. On pourrait citer de nombreux exemples, même récents, j'en citerai un seul, le débat sur l'avortement, il cherche maintenant à l'éviter, parce qu'il sait que c'est pas un thème porteur, alors que les Républicains peuvent être en défensive. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille avec d'autres personnes qui, derrière lui, ont plus d'idéologie peut-être que lui. Et donc il faut bien voir le complément entre la personnalité Trump et puis ceux qui l'accompagnent et qui eux se basent sur des idées.
C'est comme les chocolats fourrés, c'est-à-dire qu'il y a un enrobage, c'est ça? Il faut bien regarder ce qu'il y a en dessous, c'est ça, avant de choisir son chocolat.
Il y a le programme d'une future administration qui est préparé par la fondation Heritage et toute une série de gens avec quand même un certain nombre d'idées. Certaines reprises en public par Donald Trump, par exemple sur la politique commercial, qu'il a déjà annoncé, puis d'autres qui sont dans ce programme en cours de préparation.
William Tay, comment est-ce que vous voyez le personnage, justement, cette stratosphère autour de lui, en fait?
Donald Trump arrive en 2016 sur la scène politique en opposition avec Barack Obama. C'est-à-dire qu'en 2012, il s'était posé comme le premier opposant à Barack Obama, notamment sur la question de la nationalité et le lieu de naissance de Barack Obama. C'est comme ça qu'il émerge politiquement et c'est comme ça qu'il s'impose au sein du Parti républicain. Ensuite, après, pourquoi est-ce qu'il a réussi à convaincre une partie des électeurs républicains à voter pour lui lors de la primaire de 2016? C'est en raison de plusieurs éléments. Un, c'est en raison du fait qu'il y a beaucoup d'électeurs dits déclassés de la Rust Belt, notamment ce qu'on appelle la classe ouvrière blanche, qui en avait marre de ce qu'on appelle du phénomène de désindustrialisation qui s'est tourné vers lui, notamment dans le Nord, dans l'Ohio, en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Wisconsin, et qui ont voté pour lui. C'est le cri de l'Amérique profonde, notamment dans le Sud, ce qu'on appelle les électeurs ruraux et les électeurs qu'on appelle des suburbs, notamment des banlieues, qui en fait, on avait marre des différents discours progressistes qui sont
portés. Qui aujourd'hui sont très déçus d'ailleurs.
C'est plus mitigé, je vais expliquer pourquoi. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'en fait, c'est un des seuls à pouvoir parler en fait, à ce qu'on appelle à l'Amérique profonde, à pouvoir parler aux tripes, etc. Et donc, comme il est en totale opposition avec ce qu'on appelle le Parti démocrate, c'est un des seuls à pouvoir faire ce qu'on appelle une véritable alternance. À la différence de 2016 et 2020, moi je dirais qu'il y a une modification, c'est qu'aujourd'hui il a un agenda qui est spécifique et qui fait peur à une partie des élites américaines, notamment c'est ce qu'on appelle l'agenda 2025, où il a promis d'être dictateur pendant un jour, où il promet d'attaquer ce qu'on appelle l'État profond, et d'attaquer profondément, alors qu'à la différence, quand vous regardez le programme de 2016-2020, il y avait à peu près 5-6 bullet points, 5-6 items, il disait plus des principes sur quelle direction il allait aller, mais il n'y avait pas un véritable programme, et comme l'a rappelé monsieur l'ambassadeur, cette fois-ci, il a un programme qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus fort, et qui fait beaucoup plus peur à une partie des... C'est pour ça que Biden l'attaque en disant qu'il y a un risque pour la démocratie.
J'ai lu d'ailleurs que les patrons tremblaient à Davos dans l'hypothèse d'une réélection de Trump, Anne Toulouse.
Tout ce qui est un facteur d'instabilité et de donner tout de même la plus grande puissance du monde à quelqu'un qui n'a pas brillé par la constance et qui a quand même, il ne faut pas oublier, il y a un facteur imprévisible chez Donald Trump. Je pense qu'en ce moment, oui, tout le monde est inquiet, surtout, d'autant plus que l'économie américaine est quand même, elle est dans les chiffres, elle est très solide. Mais en même temps, dans la réalité quotidienne, si Trump aussi est porté au pouvoir, ce sera par le mécontentement de la population américaine, d'une grande partie de la population, parce qu'on dit oui, l'inflation est contenue. Elle est contenue par rapport à une inflation qui était haute. C'est comme si vous dites à un malade, vous aviez 40 de fièvre hier, aujourd'hui c'est plus que 39, vous devriez vous sentir bien. Quand je vais au supermarché, je me rends bien compte qu'il y a lieu d'être mécontent. Et puis, il y a l'inflation qui a vraiment pénalisé la classe moyenne américaine. Oui. Vous avez les jeunes couples qui se marient, veulent acheter une maison. C'est très important, la maison, pour les Américains. Vous ne pouvez pas acheter une maison. Oui. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas commencer votre vie. Les loyers augmentent. On ne peut plus voyager.
Il y a cette fracture qui s'intensifie de plus en plus. On parle des deux Amériques, l'une pauvre, l'une aisée. Mais on a... Quelle réponse, vous vous rendez compte ? On a Joe Biden d'un côté... Et Donald Trump de l'autre.
Mais ce n'est pas l'Amérique pauvre et l'Amérique aisée, c'est l'Amérique qui est au milieu, de même qu'on parle toujours, on parle toujours des démocrates et des républicains, mais attendez, c'est 30% de chaque côté, au milieu vous avez les indépendants. Et moi j'ai l'impression qu'on me parle toujours d'un pays dans lequel je vis, et qui est prêt à s'étriper, qui est partagé en deux.
Et vous dites que non.
Moi je dis que non, parce que je dis qu'au milieu il y a un centre dont on ne parle jamais. Et qui d'ailleurs.
Et qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là?
Ces gens-là pensent comme tout le monde. Que 4 ans de cirque avec Donald Trump, ça suffit. Ils n'ont pas envie de replonger là-dedans. Ils n'ont pas envie d'être la risée du reste du monde. Ils n'ont pas envie d'être présentés comme une dictature. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas non plus qu'on leur fasse peur de l'autre côté. Parce que vous avez deux candidats qui manient la peur. Vous avez Trump d'un côté, les valeurs de l'Amérique vont s'effondrer, on vous vole votre pays. Il y a l'immigration incontrôlée aussi qui pèse beaucoup. Les gens ne sont pas contre l'immigration. Quand vous regardez les sondages, les gens dans les sondages sont extrêmement raisonnables. Ils sont pour une immigration contrôlée, pas pour une immigration incontrôlée. Ils sont pour des lois sur l'avortement qui sont ceux en Europe et non pas Roe v. Wade ou l'interdiction totale. Et des deux côtés, vous avez des extrêmes qui agitent le cocotier. Mais c'est ça le problème pour moi.
Mais est-ce qu'ils seraient d'accord, dans le prolongement de ce que vous dites, est-ce qu'ils sont contents de l'Amérique de Biden aussi?
S'ils étaient contents de l'Amérique de Biden, Biden aurait 60% dans les sondages et on ne verrait pas Trump. Enfin, je pense. Hein.
Non, parce que vous dites beaucoup de critiques envers Trump, mais j'aimerais bien savoir ce que pensent ces indépendants de Biden.
Je viens de vous dire qu'il n'était pas content de la situation économique.
En 30 secondes versus 5 minutes. Mais est-ce que Biden est dans la même catégorie qu'Hillary Clinton, qui a été, on l'a dit, tous les observateurs l'ont dit, le symbole de l'establishment que les Américains ne voulaient plus?
Non, mais il y a déjà l'âge de Biden, et on ne va pas faire de l'anti-agisme, mais il avait quand même promis de ne pas se représenter. Et voilà. Donc,
Philippe Etienne.
Non, ce qui est sûr, c'est que Joe Biden fait tout pour ne pas faire les erreurs d'Hillary Clinton. à tel point qu'il a été sur des piquets de grève, lors des grèves...
Des entreprises américaines de voitures.
Et en fait, effectivement, comme vous le disiez, l'affaire se joue dans quelques États qui étaient plutôt démocrates, plutôt ouvriers, et où en fait les démocrates et Joe Biden personnellement, le Joe qui veut se présenter comme le Joe populaire issu de la Pennsylvanie, veut reconquérir cet électorat. Et donc ça, la leçon a été apprise. La question, c'est est-ce qu'il y arrive ? Et de ce point de vue-là, effectivement, la situation de l'économie est extrêmement fondamentale, même si ce n'est pas le seul facteur, mais comme d'habitude, c'est un facteur essentiel. Et moi, je dirais que l'essentiel, parce que vu d'Europe, la situation aux États-Unis, elle est quand même assez favorable, que ce soit le chômage ou même l'inflation qui a baissé, mais le chômage est très très bas, historiquement bas. Donc la question, c'est la perception, comme vous le disiez, par les habitants. Or, hier, bon, il se trouve que hier, il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis, qui confirment la baisse de l'inflation et qui montrent une amélioration de la perception des consommateurs. Le problème le plus douloureux, je crois, ça reste le logement. Effectivement. Mmh. Mmh. Mais sinon, on voit... Donc, ça va se jouer dans les mois qui viennent. Est-ce que Biden réussit à augmenter... Il a une cote très basse actuellement. C'est beaucoup lié à l'économie. Est-ce que dans les mois qui viennent... Il ne faut pas que ça arrive trop tard, hein, parce que bon, il y a les conventions cet été, il y a une dynamique. Est-ce que dans les mois qui viennent, il arrive à remonter sa cote en améliorant la perception de la situation économique et sociale par les Américains ?
William Tay.
Biden a des points faibles et des points forts. Les points faibles, c'est qu'il a la cote de popularité la plus basse de l'histoire d'un président américain sortant. C'est-à-dire qu'il est même plus basse que celle de Donald Trump en 2020. Pourtant, il y avait le Covid. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, il y a une moyenne de poules qui sont faits. D'ailleurs, tous les ambassadeurs le reçoivent. Et en fait, Biden a le pire cote de sondage sur deux points. La cote de popularité personnelle. Est-ce que le pays va dans la bonne direction? C'est-à-dire sur ces deux points, c'est le plus mauvais. Et normalement, si par cas, ce n'était pas Donald Trump en face, c'est quasiment certain qu'il perdrait l'élection de 2024 au vu de ces sondages. Le deuxième point, c'est que sur un ensemble d'États, la configuration électorale, normalement, se jouait dans quelques États. Le Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, Géorgie, l'Arizona et le Nevada. Seulement, depuis que Donald Trump a pris le pouvoir, en fait, il a amélioré le score des Républicains auprès de ce qu'on appelle les électeurs dits de diversité. Les Noirs afro-américains, les Latinos, et en fait, les États du Sud, qui étaient auparavant contestés, ne le sont plus. Donc, ça se joue dans trois États. Et c'est là où j'arrive au point fort de Biden, c'est que malgré tout, son bilan est plutôt bon d'un point de vue économique, d'un point de vue macroéconomique, parce que la croissance est plutôt bonne, et parce qu'il a fait deux plans qui ont permis de soutenir l'industrie américaine, ça s'appelle Big Bad Vector et l'Inflation Reduction Act, qui ont permis de soutenir en fait l'industrie américaine et soutenir ce qu'on appelle la classe ouvrière américaine. Et c'est là où en fait il est fort, et c'est pour ça qu'il avait été choisi en 2020, c'est que Trump avait battu Hillary Clinton sur un électorat qui est clé. C'est ce qu'on appelle la classe ouvrière blanche non diplômée. Et parmi les démocrates, Joe Biden est l'un des seuls à pouvoir parler à cet électorat, notamment pour une différence de points, parce que c'est un des seuls qui n'est pas vu comme mondialiste, qui n'est pas vu comme libre-échange, etc. Le deuxième point fort qu'il a, c'est que vraisemblablement, l'État qui est le plus clé, c'est l'électorat de Pennsylvanie, et c'est son État de naissance. Et c'est comme ça qu'il avait empêché une déroute des démocrates en 2020, lors des de 2022, pardon, lors des mid-termes. Et c'est comme ça qu'il avait gagné l'élection de 2020, parce que c'est l'État qui est le plus clé et qui permet en fait, de faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre.
Alors, comment est-ce que ça se fait qu'on parle, encore une fois, pardonnez-moi d'insister, de Biden et de Trump, alors qu'on a quand même des acteurs importants comme Kamala Harris, on a vu Ron DeSantis, tout ça, ça fait pchit, Nikki Haley, ça fait pchit. Qu'est-ce qui se passe à Toulouse?
Pas encore tout à fait pchit pour Nikki Haley, mais enfin, c'est quand même mal parti pour elle. Mais, moi, ce qui me frappe, je n'ai pas de réponse à vous donner, parce que, surtout en tant que future électrice au mois de novembre, je suis sidérée de voir qu'il va vraisemblablement y avoir deux candidats dont 75% des électeurs ne veulent pas. Alors, c'est vous ne voulez ni fromage ni dessert, vous aurez fromage ou dessert. Alors, évidemment, dans la tradition américaine, il y a pas de troisième parti. Il y a des gens qui songent en mettre un sur pied, mais enfin, ça m'étonnerait qu'ils aient la logistique d'ici les élections. Ça s'appellerait no labels, pas d'étiquette. Et celui qui est à l'origine de ça est Joe Lieberman, qui était le colistier d'Al Gore. Mais ça a quand même quelque chose de surréaliste de voir tout le monde. C'est même pas à la limite, même ceux qui soutiennent Joe Biden disent non. C'est pas possible. Il aura 82 ans. Écoutez, aux États-Unis, c'est un âge où vous devez, si vous renouvelez votre permis de conduire, vous devez passer un examen. On ne vous donne pas un crédit immobilier. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment Joe Biden, qui aurait pu partir avec tous les honneurs de la guerre, a complètement barré tous les candidats. Mais Dieu sait qu'il y en a et qui attendent dans les coulisses. Et du côté Trump, eh bien, vous avez les primaires. C'est le problème des primaires.
Ils n'avaient aucune chance de gagner. Quand vous regardez les sondages, moi, nous, on regarde ça quasiment tous les jours. En fait, quand vous regardez les sondages qui sont clés, parce qu'en fait, l'élection se joue dans trois États. En fait, pour être très clair, ça se joue en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Wisconsin.
C'est ce que vous avez dit.
Voilà. Ouais. Et Joe Biden est le seul des démocrates dans tous les sondages qui sont faits depuis plus d'un an ou depuis même 2 ans et donc, à pouvoir gagner dans ces États-là. Et donc, en fait, les démocrates font un pari qui est simple. C'est de se dire, bah, s'il veut y aller...
Oui, c'est ça. Et on juge sur pièce. On se dit, on regarde le sondage et on y va.
Il y a un autre point qui est important aussi, c'est qu'il n'y a aucun président sortant qui a été battu dans une primaire, sauf Gerald Ford en 76. Donc c'est quand même compliqué. Pour déloger Joe Biden, il faudrait le battre dans une primaire. Mais il n'y a aucun candidat démocrate qui pourrait battre un président sortant démocrate. Mmh. Et c'est pour ça que s'il veut y aller, il ira. Et je pense qu'aussi, il y a une partie de l'establishment démocrate qui se dit également avec un certain cynisme, en se disant, de toute façon, ce sera le dernier mandat de Biden. Et peut-être si Trump est élu, le dernier mandat de Trump. Et de toute façon, on mettra quelqu'un de nouveau qui nous correspondra davantage.
À chaque fois qu'on parle de Gerald Ford, je me souviens de cette phrase où il avait dit, je crois que c'était son discours d'investiture, « I'm a Ford, not a Lincoln ». Alors, il y a évidemment une métaphore automobile autour de tout ça, et présidentielle à la fois. Philippe Etienne, pardon.
Non, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il y a une logique institutionnelle dans le fait que Joe Biden se représente. Les présidents américains qui font un mandat, ils se présentent à un deuxième mandat. Et ils sont d'ailleurs, si on prend les dernières décennies, plus en majorité réélus que pas. Il y a eu évidemment des présidents, à commencer par Donald Trump, qui n'ont pas été réélus, ou Bush père, ou Carter, mais les autres ont été réélus. Donc ensuite, il y aurait bien sûr... des tas d'Américains, je suis d'accord avec vous, d'après les sondages, la plupart des Américains ne voulaient pas revoir cette affiche. Mais en même temps, est-ce qu'un électeur plutôt démocrate au dernier moment, qui n'est pas à l'aise avec la candidature de Joe Biden en raison de son âge, ne va pas buter Biden à la fin? C'est probablement que si.
Mais est-ce qu'il y a eu des erreurs chez Kamala Harris, chez Ron DeSantis, chez Nikki Haley? Est-ce qu'il y a eu des grosses bourdes qui font que ces gens-là, finalement...
Les deux situations sont différentes, du côté démocrate et du côté républicain. Du côté démocrate, Kamala Harris, de toute façon, elle n'est pas la seule qui aurait pu se présenter. Oui. Elle, de toute façon, elle est vice-présidente, donc elle est dans sa ligne. Elle a souvent été critiquée, c'est vrai, mais elle fait son rôle de vice-présidente, et Joe Biden le sait, puisqu'il a été vice-président 8 ans. C'est pas un rôle où on est très facilement visible dans le système américain. Du côté républicain, dans le système institutionnel américain...
Mais vous dites vous-même, il a été vice-président, et ensuite il a été président, donc à un moment donné, une continuité.
Il y a eu l'élection d'abord de Trump, il est venu après
entre-temps, mais bon.
Et... il avait derrière lui et devant. Il a quand même été très longtemps sénateur. Il a fait beaucoup d'autres choses. Du côté républicain, oui, je crois que les rivaux de Trump, vous l'avez déjà dit, n'ont pas su. Alors, c'est pas complètement. On va voir le New Hampshire mardi prochain. Si Nikki Haley arrive en tête, par exemple.
Mais elle n'arrivera pas en tête.
C'est sa seule chance de recréer une dynamique. Et donc,
le gap est assez important entre Trump et Nikki Haley.
Oui, mais c'est tout le problème des primaires, parce que si c'était une élection générale, Nikki Haley gagnerait devant Biden, d'après les sondages. Mais le problème, c'est que les primaires tirent le tapis sous les pieds des candidats potentiels. Je connais des démocrates qui me disent « oui, on voterait pour Nikki Haley parce que Joe Biden est trop vieux, parce qu'il est usé, c'est comme ça qu'ils le ressentent. Mais c'est évident que ce n'est pas des gens non plus qui vont voter pour Trump.
Comment est le facteur féminin? Quel est le désir profond des Américains d'avoir une femme présidente ou pas, en fait? Est-ce que ça compte énormément ou pas?
Alors, si vous entendez tous les discours sur le plafond de verre, oui, alors il y a tout cet éloge de la diversité. Je pense que si une candidate femme arrivait à réunir autour d'un programme politique, je ne sais pas, moi je suis mal placée pour dire ça, parce que j'ai tendance à trouver que les candidats doivent être jugés sur leurs valeurs et non sur un accident génétique. Donc,
c'est joliment dit, bravo Anne, c'est très très joliment dit. William Tay,
sur la question que vous posez, Kamala Harris s'est trompée lors de la première année de mandat sur deux points précis. C'était sur la loi immigration, qui a fait perdre beaucoup de voix en fait, auprès du Parti démocrate, qui l'ont fait descendre sa cote. Et l'autre point, c'est qu'en fait, elle n'a pas réussi à exister au détriment de Joe Biden sur beaucoup de sujets. En fait, comme elle est bloquée à Washington, parce qu'en fait, au Sénat, il y avait un 50-50, elle devait être très présente à Washington, elle n'a pas eu le temps de faire le tour du pays pour augmenter sa cote de popularité. Donc comme sa cote de popularité n'a pas augmenté, les démocrates n'ont jamais réellement l'envisagé comme candidate pour remplacer Joe Biden et pour battre Donald Trump. Du côté républicain, l'erreur de DeSantis, c'est qu'en fait, au moment des mid-terms, il avait la cote, il avait été à égalité dans les sondages face à Donald Trump dans l'élection primaire. Mais il a fait plusieurs erreurs, notamment des déclarations inopportunes sur l'ancien président. Et il s'est trompé sur l'ensemble de ses déclarations, notamment il n'a pas choisi les bons thèmes pour caricaturer. C'est comme s'il avait choisi un positionnement plutôt Zemmour en France plutôt que celui de Marine Le Pen. Et c'est le positionnement plutôt populiste qu'a porté plutôt que le positionnement conservateur. Et c'est là où DeSantis a fait une erreur stratégique qui l'a empêché de grand remplacer Donald Trump.
Et, ben voilà,
et en plus, il a trouvé le moyen de se fâcher avec Disney qui est le premier employeur de son État. C'est pas très malin.
C'est pas très malin, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Merci beaucoup à vous trois. Merci Philippe Etienne. Merci Anne Toulouse. Merci William Tay.